Bonsoir à vous, chers auditeurs. Vous écoutez un nouveau coup critique, et cette fois-ci, au lieu d'être avec Raphaël, je suis avec Elia et Mika. Comment vous allez tous les deux?
Ben, ça va très bien, et toi?
Ah, bah écoute, moi ça va de manière fantastique en ce moment. Mika, toi la forme?
Impeccable. Impeccable. En plein
Impeccable. Ah.
déménagement, plein de trucs,
Plein
deux
de
nouveaux
trucs.
tafs. Non, on est trop bien.
Ah. Ben, la nouveauté, y a que ça de vrai, hein, si je puis dire. Et à propos de nouveautés, aujourd'hui on est là pour vous parler, mais vous avez vu le titre de toute façon de cet enregistrement. De vous parler de Arcane, qui est une série télévisée d'animation américano-française produite par Riot Games et qui prend place dans l'univers du jeu vidéo très 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 célèbre League of Legends. Elle est diffusée à l'international sur Netflix depuis le 6 novembre 2021 et je ne peux m'empêcher de remercier la page Wikipédia que je suis en train de lire en ce moment même. Mais du coup, déjà, je vous propose qu'on parle un petit peu de votre rapport à League of Legends. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous connaissez pas? Toi, Mika, je crois que t'as pas mal joué à TFT, il me semble, c'est ça?
Ouais, et puis dans mes jeunes années, à une époque sombre et lointaine, je suis repassé sur mon compte LoL il y a pas longtemps, je me suis rendu compte que c'était pas si vieux, mais quand même, 2015, 2016,
Ouais.
2017, j'ai fait 3 grosses années de League of Legends à plein temps, à une époque où on jouait beaucoup avec des potes, c'était l'époque où l'e-sport était vraiment était un truc important pour nous et qu'on regardait les compétitions, où ça commençait à prendre de l'ampleur, où l'Europe avait encore une place et n'était pas
Ouais.
démolie par les Chinois et les Coréens.
Ah.
Et ensuite, ouais, bah là récemment, moi je joue et juste je regarde parce que j'ai pas beaucoup de temps de jouer en ce moment, mais du TFT, ouais.
D'accord, ok. Et toi, Elia, l'univers de League of Legends, ça te parlait avant Arcane ou
De loin, parce que j'ai pas mal de potes qui sont fans et qui jouent beaucoup. Et puis il y a quelques mois, j'étais tombée sur les cinématiques qu'ils ont fait là. Ils en font beaucoup et tout depuis un moment. Je les avais trouvés vraiment très très cool et justement j'étais en mode putain faut trop qu'ils fassent une série, c'est stylé, mais à part ça le jeu j'ai jamais joué quoi.
Et ben ça tombe bien du coup parce qu'au final ça veut dire que ce soir nous sommes chers auditeurs en présence d'une personne qui connaît très très bien l'univers donc et une personne qui ne le connaît pardon pas du tout ainsi que moi-même qui vais rester du coup un petit peu alors je vais quand même donner mon avis. Moi, je vous le dis, League of Legends, j'y connais rien du tout non plus, donc je serais très content d'écouter vos différents points de vue. Alors, ce que je vous propose, c'est déjà qu'on essaye de. Déjà, je vais essayer de résumer un peu le scénario sans spoiler. C'est une série qui prend sa place donc dans le monde de Runeterra, qui est donc l'univers fictif qui a été mis en place dans les jeux League of Legends. Et l'intrigue, pardon, se déroule plus précisément à Piltover, donc du coup qui est une grande, grande ville gigantesque, très industrielle, très steampunk hein, finalement. Et dans cette ville, on va donc suivre des enfants au début, en tout cas, notamment Jinx et Vi, deux sœurs qui ont vécu une enfance difficile dans les bas quartiers de cette ville. Et il va se passer des choses, et j'en dis pas plus à ce niveau-là. Du coup, je vous propose qu'on passe directement à votre avis. À chaud sur cette série animée sans bien évidemment spoiler l'intrigue. Déjà, qu'est-ce que vous en avez pensé, que ce soit aussi bien au niveau du scénar que de la musique, que de l'animation, bref, votre point de vue quoi en somme. Voilà. Je vais peut-être commencer du coup, Elia, vu que tu connais pas l'univers de base, ça
Ok,
peut
ça
être
va.
intéressant d'avoir ton point de vue en premier.
Yes, bah inutile de préciser que le graphisme est incroyable, la réal est folle. Je trouve que c'est vraiment une qualité de cinéma. D'ailleurs, ce serait vraiment, je trouve, le genre de série que tu as envie de voir au cinéma. Ouais, c'est très très beau, l'animation est incroyable. La musique est cool, très très cool. J'ai bien aimé les personnages, je trouve que c'est cool parce qu'on a une bonne diversité et qui tape un peu dans tous les genres, donc on peut se retrouver un peu partout. Après, j'ai bien aimé justement parce que sans connaître, en fait, t'as pas besoin de connaître, c'est une histoire qu'on te raconte. Tu sens qu'il y a un peu des trucs que les vrais de vrais savent et qu'ils ont vu et ils savent de qui on parle. Mais toi qui n'as jamais vu et qui connais rien, ça te dérange pas parce que chaque personnage est vraiment développé comme il faut, à son rythme. Et du coup, tu découvres l'univers, t'es vraiment accompagné tout au long du truc, quoi, en fait. Donc, je trouve ça vraiment bien fait pour le coup. Très cool.
C'est clair que c'est à ce niveau-là, c'est quand tu connais pas l'univers, t'as pas besoin de le connaître, tu le découvres au travers des personnages, t'es plongé dedans dès le début, et c'est assez rafraîchissant, je trouve, d'avoir une série qui te prend pas non plus par la main en te disant tiens, regarde, il y a ça ou il y a ça, ou à l'inverse, une série qui n'est là que pour faire des easter eggs pour les gens qui connaissent. Non, là, c'est vraiment t'es plongé dedans, mais t'apprends à connaître, et franchement, ça passe nickel, je trouve.
C'est exactement ça, je trouve qu'ils s'en sont bien sortis. Et puis pareil, en termes d'univers, je trouve que Pour le coup, je suis partisane de dire qu'ils n'ont rien inventé en termes de scénario, parce que c'est des histoires, enfin, c'est une lutte des classes, entre guillemets, donc on connaît déjà ce genre d'histoire. Mais ce qu'ils ont bien dosé, je trouve, c'est justement ce rapport à la magie qui est là, mais sans être trop prédominant. En fait, on reste dans quelque chose d'assez réaliste qui fait que ça part pas tout de suite dans un monde auquel tu comprends rien. Et je trouve que ça joue dans le fait que tu t'accroches plus, enfin tu t'identifies tout de suite à l'histoire, en fait, si tu vois ce que je veux dire.
Je suis tout à fait d'accord avec ça. On en reviendra d'ailleurs après dans la partie spoil, je pense, quand on détaillera le scénario, mais c'est vrai que la boîte basique, moi je l'ai trouvé quand même très très bien ficelé, mais on y reviendra tout à l'heure. Et toi, Mika, de ton côté, quel est ton point de vue, toi qui connais le jeu? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que t'es déçu? Est-ce que t'es heureux?
Ce serait mentir que de dire que j'ai été déçu. Franchement, j'ai mangé une claque visuelle, une claque auditive, ouais, une claque scénaristique hors norme. C'est clairement, pour moi, la meilleure série qui est une sortie Netflix de l'année, voire peut-être même des 2-3 dernières années.
Ouais.
En termes de qualité d'écriture, en termes de qualité visuelle, en termes de qualité de narration, j'ai trouvé que il y avait très peu de points faibles. Bien sûr, il y a comme tout, aucun produit n'est parfait. Il y a des choses, oui, il y a des choses qui sont en demi-teinte, mais très clairement, les points faibles sont tellement mineurs par rapport aux points forts de cette série. Comme tu le disais bien, Elia, effectivement, tu prends une baffe graphique exceptionnelle. Enfin, c'est beau du début à la fin, ça te claque à la gueule. Les OST sont exceptionnels. Enfin, ouais, le générique a quand même été composé et écrit par Imagine Dragons, s'il vous plaît.
Le générique, incroyable.
Non, mais ouais, non, voilà. Et puis toute la bande son, moi perso, je me la réécoute en boucle depuis et je continue. Là, tout à l'heure, je faisais mes cartons avec la bande son, tu vois, et je continue. D'ailleurs, vous l'avez regardé quand, vous, la série? Est-ce que c'était en même temps qu'elle sortait ou vous avez attendu qu'elle sorte et vous l'avez regardé d'un trait?
Alors moi, j'ai attendu que vous me disiez que ça existait et donc du coup, tout était déjà sorti.
Ouais, moi pareil, j'ai attendu que ça soit tout sorti et j'ai regardé du coup d'une traite et là, je viens de me la refaire. Je suis en train de finir aujourd'hui là.
Ah ouais,
trop bien.
Ouais, mais c'était en projet pour moi aussi, je voulais me la refaire. Mais du coup, moi, je l'ai faite en VO. Je sais pas si c'est votre cas.
Moi, ouais, je l'ai regardé en VO aussi, ouais.
Et là, je voulais me la refaire en VF pour voir, justement. Parce qu'on m'a également dit que la VF était très très bien. J'ai regardé une partie du premier épisode, j'ai trouvé ça très correct. Et en plus de ça, ben, Cocorico, c'est un studio français qui a fait l'animation.
Oui, c'est
donc,
vrai.
Ça doit être un petit peu stylé d'avoir des personnages français derrière. Même si toi, Marc, tu les prononces à la française, ça m'a fait rigoler. Tu dis vie.
Oui, c'est Vice, c'est ça.
C'est ce que je disais. Ben, je crois que c'est le personnage qui est sorti quand j'ai commencé à jouer à LoL.
Ouais.
Je crois que c'était Vice qui venait de sortir à ce moment-là. Et tout le monde disait vie parce qu'on savait pas que c'était Vi, c'était le diminutif de Violette,
ouais,
en anglais, mais en français on dit Violette, donc quelque part vi c'est correct si tu le traduis. Mais bon, techniquement un prénom ne traduit pas. Bon.
Et du coup dans la VF d'ailleurs ils disent Vi ou ils disent Vi?
Ils disent Vi, ouais.
Ils disent Vi.
Ah, ils disent Vi dans la VF.
Ils disent Vi, ouais. Ouais, ouais, parce qu'en fait, c'est rentré canoniquement qu'on dit Vi parce que c'est un prénom et que ça se prononce comme ça se prononce son prénom.
Ok.
D'accord. Ah, c'est intéressant. Mais ouais, ce que tu disais sur l'animation, je trouve ça hyper hyper intéressant parce que alors c'est dommage que Maxime soit pas là ce soir parce que il me l'avait beaucoup notamment conseillé au niveau de l'animation. Il m'avait dit que tu pouvais mettre pause à n'importe quel moment et c'était toujours beau, quoi. T'avais pas d'erreurs, t'avais pas de tout, était toujours lisse. Les scènes d'action, elles sont incroyablement bien fixées.
Ah, mais c'est
enfin,
des
fixées.
Tableaux,
tu fais pas la différence entre l'imagerie d'animation 3D et le dessin. C'est franchement, c'est comme tu as dit, Mika, c'est une prouesse graphique qui est absolument incroyable. Et puis graphiquement, l'univers, il est ouf, quoi. Moi, je connaissais pas du tout cet univers-là, mais je suis un grand fan de steampunk. Et là, tu plonges corps et âme dans un truc comme ça. Et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment dingue visuellement. C'est assez, assez incroyable. Je suis bluffé. Musicalement, vous l'avez dit vous-même, effectivement, c'est vrai que la musique, elle est folle aussi. Et puis c'est cette manière de foutre des musiques actuelles sur quelque chose de qui est censé se passer sur une époque qui est pas vraiment la nôtre. Je trouve toujours le décalage assez intéressant auditivement et aussi la manière dont la musique accompagne notamment les scènes d'action, ou en tout cas les scènes que t'as à l'écran. C'est pour moi c'est une grande grande réussite,
Grave.
Ouais, et puis comme tu dis pour l'animation, je trouve que, enfin, je me suis fait la réflexion à plusieurs moments où il y a des moments tu te perds et t'as vraiment l'impression que c'est du réaliste. Enfin, c'est un vrai film.
Ouais, que c'est vrai, en fait, ouais.
Que c'est pas du dessin. Et il y a plusieurs moments où je revenais, j'étais « Ah, mais non, mais c'est pas... Enfin, c'est de l'animation, c'est... » Tellement c'est bien fait que tu te perds volontiers dedans, quoi.
Mais tout à fait, c'est clair. C'est clair, et puis les designs des personnages sont ouf. On dirait des voix, on dirait, comme tu dis, on dirait des vraies personnes, quoi. Il n'y a pas ce côté animé, entre guillemets, à la japonisant, quoi. Tu as vraiment l'impression d'avoir un graphisme proche du réel. Ouais.
Ouais, les émotions sur les visages sont ultra justes. Enfin, y a vraiment, ils ont su capter des trucs,
C'est
enfin,
ça,
des
mais
détails, quoi.
limite, des fois, tu te demandes, c'est pas de la motion capture ou de la performance capture, mais en fait, non, c'est vraiment
Ouais.
que de l'animation, quoi. T'as pas d'humain qui mime, quoi.
Ouais,
Et
carrément.
c'est assez ouf. Et toi, Mika, du coup, par rapport aux jeux vidéo, ça respecte bien l'univers, il n'y a pas de souci à ce niveau-là.
Alors, moi j'aime beaucoup le lore de League of Legends, mais je t'avoue que quand j'ai pris la série, j'en avais un peu rien à foutre,
Ouais.
parce que c'est pas du tout ce qui m'a importé.
Ouais.
Quand j'ai allumé la série, moi j'ai regardé l'histoire de Popo et Vi, et puis c'est tout. Parce que ensuite, il y a des gens qui ont dit, oui, mais c'est pas exactement ça, oui, mais Zaun, c'est pas pareil, ah, mais Piltover, il n'y a pas si normalement, ah, mais
Ouais.
Jace, en fait, on s'en fout. C'est une transcription d'un univers qui a été créé par une grosse boîte, hein, par Riot.
Ouais.
Et en fait, ils en ont fait quelque chose. Ils ont décidé de pas changer des choses. Ils ont édulcoré certaines, ils ont durci certaines autres. Et le rendu, pour moi, est juste parfait. Et en fait,
Ouais.
l'univers est présent. Alors, les petits détails de machin, en fait, il n'est pas censé connaître un tel avant telle période. Clairement, on s'en fout, quoi.
Oui, en fait,
C'est
c'est une adaptation, c'est pas techniquement canon vis-à-vis du jeu, en fait.
exactement ça. C'est-à-dire que c'est le jeu vidéo, en fait, aujourd'hui, son histoire n'a plus aucun sens par rapport à l'univers qu'ils ont créé. Donc, en gros, ils ont totalement abandonné le principe de base qui était vous êtes des invocateurs et vous invoquez des champions dans une faille dans lesquelles ils se battent, une sorte de grande arène.
Ouais.
Aujourd'hui, c'est toujours le cas. C'est juste que les créateurs savent pas comment changer ça parce que ça n'a aucun sens par rapport à l'univers qu'ils ont créé. Et en fait, du coup, ils se disent, en fait, on va s'en affranchir totalement. On va partir
Ouais.
sur le fait que, ben, pour eux, leur univers est cohérent. Il n'y a pas de faille de l'invocateur ou quoi. Il n'y a pas de, on va se mettre sur la gueule à 5 contre 5 pour aller casser un Nexus. Juste, ils font leur vie dans leur ville. Ils se font la guerre, ils font de l'épée, ils se développent, ils s'aiment, ils se détestent, mais il n'y a plus tout cet enjeu, il n'y a pas du tout d'enjeu de jeu vidéo derrière, en fait. Il n'y a plus du tout les mêmes enjeux. Et pour moi, justement, avoir fait l'impasse sur tout ce côté bah, trop jeu vidéo,
Gameplay presque en fait, ouais.
ouais, c'est ça, et ben en fait, pour moi, c'est la plus grande force d'Arcane.
Ok.
Enfin, moi, c'est une histoire et tu te laisses emporter par l'histoire. Et c'était pas le cas quand ils ont commencé à créer le jeu. Clairement, au début, t'avais deux lignes d'historique sur un champion. C'était un tel, c'était genre un grand méchant, point. Et au fur et à
Et
mesure,
puis
ils ont
c'est tout,
sorti des
quoi.
persos, ils ont fait des liens et des connexions entre certains personnages. Et en fait, ils ont créé tout un univers autour de ça qu'ils ont décidé d'étendre. Et c'est pour ça qu'ils ont créé d'autres jeux. Donc, on a TFT, on a Legend of Runeterra, on a là maintenant Legend of the Ruined King. Ruined King, qui raconte aussi une autre histoire, qui est un RPG, donc c'est pareil, ils prennent certains personnages, ils les réunissent et ils en font une histoire. Et ça n'a rien à voir si par exemple ces personnages un jour sont dans Arcane, dans une autre saison, dans une autre itération, ben je suis sûr qu'ils n'ont absolument rien à voir avec le jeu
Ouais.
vidéo dans lequel on les a vus initialement.
Ouais, c'est vraiment la notion d'adaptation pure et dure, quoi. C'est presque des principes d'univers partagé, parallèle, et que c'est dans un jeu, faut considérer le jeu vidéo comme quelque chose de différent de la série animée.
C'est ça, en fait, on va pas chercher à, parce qu'il y a la série qui est sortie, ça devient canon.
Ouais.
Non, en fait, on s'en fout que ça soit canon ou pas canon, parce que l'autre, c'est un jeu vidéo. En fait, on s'en fout. Ce qui va compter dans le jeu vidéo, ça va être le gameplay, pas son histoire. Alors que
Bien
dans
sûr.
une série, ce qui va être intéressant, c'est plus le
C'est
game, c'est
l'histoire.
justement, c'est l'histoire. Et
Ouais.
là, du coup, ben, ils ont fait une histoire qui se tenait. Et même si par rapport au lore, il y a des différences, ben, on s'en
C'est pas
fout.
grave.
Parce que
Ouais.
pour l'histoire, ça colle.
Et à propos d'histoire, ce que je vous propose, si ça vous convient, c'est qu'on passe à la partie spoil, chers auditeurs, comme ça nous on pourra spoiler, on pourra se lâcher un peu plus peut-être. Et bah c'est parti, si vous n'avez pas vu Arcane, courez voir Arcane, et puis après revenez directement sur le bon timer. Et donc du coup, partie spoil. L'histoire de manière plus précise, donc comme tu l'as dit, Elia, c'est un peu une sorte de lutte des classes presque, hein, entre les bas-fonds qui sont zones, hein, de ce que j'ai cru comprendre, mais qui sont pas encore une ville indépendante, et la surface, on va dire, hein, qui serait plutôt la ville de Piltover, qui est une ville de science, et qui vient de découvrir notamment une nouvelle technologie à base de magie, mais dont bien évidemment ne profiteront qu'une partie de la population, c'est ce qu'on essaie de nous faire comprendre petit à petit. Et tous ces personnages sont retrouvés coincés dans cette ville et vont tous devoir presque finalement choisir des camps sans forcément le vouloir. Et moi, ce que j'ai bien aimé dans cette série, je vais vous le dire tout de suite, c'est justement le fait qu'il n'y ait pas de manichéisme si énorme que ça à l'intérieur, en fait. C'est-à-dire qu'au début, quand les héros sont gamins, t'as un peu l'impression que t'as le méchant qui œuvre dans l'ombre, là, il a une gueule de méchant, il a une balafre, il est pas sympa, il va tuer le père adoptif des héros, etc. Mais en fait, plus t'avances dans la série, plus tu te rends compte que finalement, d'une part, bon, bah, c'est peut-être pas le meilleur, lui, c'est peut-être pas le meilleur père du monde avec Jinx, mais en tout cas, il l'aime véritablement. Que l'héroïne principale Vi a quand même abandonné sa sœur en se barrant, que au final au sommet t'as les grands magiciens, etc., enfin les grands scientifiques, mais que bon, ils sont surtout intéressés par leur petite personne et par le fric de manière générale, et qu'en fait ben tu suis des personnages, tu suis pas forcément des héros au sens héroïque du terme, et je pense que je trouve que pour une série d'animation, trouver ça qui avait l'air entre guillemets de en point de départ d'être grand public, j'ai trouvé ça vachement intéressant parce que ça ose te montrer des choses et c'est chouette, je trouve. Voilà.
Ouais, je trouve que chaque personnage est très charismatique à sa propre manière, en fait. Et je te trouve un peu dur avec Vi, elle l'a pas vraiment abandonné, sa sœur, elle s'est fait attraper, genre, et mettre en prison.
Non, parce que en vrai, du point de vue de sa sœur, elle l'engueule, puis après elle se casse et elle la laisse toute seule dans la rue. C'est juste que
ouais, mais elle comptait revenir, tu vois, c'était
elle
genre à
chaud. Revenir, et tout, tu vois. Mais du point de vue de sa sœur, on peut comprendre qu'elle a le sentiment d'avoir été abandonnée pour toujours, quoi.
Mais ouais, mais pour relever sur le côté anti-manichéen et aussi les personnages méchants, je trouve que Silco, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans Arcane, c'est vraiment les duos de personnages, je les ai trouvés vraiment forts. Donc Jinx et Silco et Vi et Caitlyn. Et Silco, justement, en fait, c'était en mode on l'aime bien finalement. Enfin, tu sais, en le regardant une deuxième fois, j'étais
il a un côté sympa en fait. Hein.
Ouais, c'est en mode bon, c'est un peu... avec le shimmer, on peut pas dire que c'est un gentil, mais je veux dire. Le fait qu'il développe cet amour paternel pour Jinx, c'est un peu un amour à toute épreuve et qu'il se voile un peu la face, même s'il voit aussi que Jinx, elle a un problème, tu vois. Mais ouais, ça le rend vachement humain, en fait. Et t'es triste, en fait, à la fin. T'es là, mais non, mais c'est horrible. Du coup, j'ai trouvé ça fort parce qu'il a justement, comme tu dis, ce côté grand méchant, la balafre...
Il a tout le design du grand méchant.
Ouais, tout ce truc, tu vois, genre avec la backstory de « en fait, je veux me venger, nanana ». Et non, en fait, lui, il va au-delà de cette histoire-là, en fait, je trouve. Donc, ouais, en effet, c'est bien joué. En fait, hein. Ouais, c'est ça, c'est bien joué, je trouve. Les personnages, en fait, s'apportent vachement les uns aux autres. Et c'est ultra constructif, en fait, à chaque fois qu'ils se rencontrent les uns les autres. Et Caitlyn, c'était assez cool de voir le développement de leur relation, et même à la fin, je trouve ça super surprenant quand Vi, elle est en mode vas-y, en fait, je vais me mettre du côté de Jace, enfin, je vais mettre Jace de mon côté pour qu'on aille arrêter Silco, et t'es en mode ah, ok, genre ça change de duo, et tu sais, c'est des duos qui parlent pas au départ, et en fait, qui fonctionnent, en fait, et qui se construisent, en fait, et qui construisent grave les personnages, je trouve. Donc, vraiment bien joué pour le relationnel entre les persos. Ouais.
C'est vrai que ça, c'est vachement... c'est une mécanique narrative qu'ils ont vachement usée dans la série. C'est le concept de duo, effectivement, où, en fait, tu peux... Toutes les interactions avec des personnages, tu peux les caractériser à des duos. C'est-à-dire que t'as Jace et Victor, Jace et Emmerdinger, Emmerdinger et Victor, Silco et Vi, Vi et Jinx, Jinx et Silco. Et à chaque fois, c'est en duo. Et en fait, c'est à partir du moment où t'as une troisième personne qui interagit avec le duo que ça va péter, en fait. Oui, à chaque fois, tu remarques que dès qu'il y a une troisième personne qui rentre dans le duo, ça fait des étincelles et ça change totalement l'action en cours.
Ça change la dynamique, en fait, des personnages. Ouais.
Ouais.
C'est bien vu ce que tu dis.
C'est Elia qui a soulevé ce point-là, et en fait, je me suis rendu, en y réfléchissant, c'est effectivement, je sais pas, je pense que c'est volontaire, bien entendu, que c'est un ressort mécanique, enfin, un ressort scénaristique, mais c'est ça, je pense, qui va créer la rupture, en fait, dans les duos, c'est d'apporter une autre personne, et ça va totalement changer le récit.
Ouais.
À chaque fois.
Ouais, c'est vrai.
Et, typiquement, je veux dire, il y a la dernière interaction de l'épisode 3, donc justement, entre Vi et Jinx, où, en fait, elles se disent non, mais t'as fait de la merde, et puis finalement, Vi va revenir. Et ben, la troisième personne qui intervient, c'est Silco, et qui va se mettre au milieu, et c'est là que tout explose, en fait.
Ouais.
Oui, il y a Marcus qui intervient au milieu, mais techniquement, en fait, c'est ce qui se passe, c'est entre les trois personnages. C'est entre Silco, Vi et Jinx. Et c'est là que vraiment va se construire la haine de Vi pour Silco et l'amour de Jinx pour Silco.
Ouais.
Parce que du coup, le duo est éclaté par la troisième personne. Et, ouais. Pareil,
et d'ailleurs, ironiquement, après, c'est l'inverse. C'est Vi qui va éclater le duo entre Silco et Jinx en revenant après,
après
des années plus tard.
Exactement.
Et du coup, foutre la merde à nouveau dans ce duo-là, quoi. Ouais. Non, mais c'est bien vu, effectivement. C'est une mécanique scénaristique qui est très intéressante, surtout quand t'as autant de personnages à traiter, parce qu'au final, t'as quand même beaucoup de personnages principaux et ils sont presque tous autant développés les uns que les autres. Hein, et ça reste quand même toujours quelque chose de fort quand même pour une série qui arrive même à rendre certains personnages secondaires attachants et à comprendre les motivations. Tu parlais de Marcus tout à l'heure, bon, qui est le flic corrompu de base, mais qui a quand même une vie de famille, etc. Tu peux potentiellement comprendre un peu ses motivations. Ou même des personnages comme alors je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est le garde du corps la garde du corps plus ou moins de Silco, qui est un peu tiraillé entre le fait de qui se fout la merde, est-ce qu'elle va le trahir ou pas. C'est toujours t'as quand même toujours des approches, on va dire, au niveau des personnages qui sont quand même très très bien traités.
En fait, je trouve que tu retrouves un mécanisme de Game of Thrones, c'est-à-dire d'avoir vraiment beaucoup de personnages qui sont tous plus ou moins développés de la même manière, au point que tu sais pas qui est le personnage principal de cette histoire, en fait. Ça switch tellement qu'au final, ils se valent tous plus ou moins. Et je trouve que c'est cool, justement, qu'ils aient pris ce type de narration-là, parce que ça agrandit, je trouve, les possibilités pour la suite, en tout cas.
Bah oui, et pour moi, d'ailleurs, c'est très très juste, je trouve, ce que tu dis. Et pour moi, le personnage principal n'est pas un personnage. C'est le titre de la série, c'est l'arcane, en fait.
C'est l'arcane, ouais, en fait, ouais, bien sûr.
Parce que toutes les interactions tournent autour de cette technologie, entre guillemets, qui vient d'être découverte. Le tout début, c'est parce qu'ils font un casse et qu'ils trouvent les pierres d'arcane. C'est pour ça que tout bascule. Et tout tourne autour de l'arcane, de les récupérer, de les utiliser, de les manufacturer, de les transformer en armes. Tout tourne autour de ça. Et toutes ces interactions vont être façonnées par l'arcane qui, pour moi, est du coup le personnage principal de cette série. Et c'est ça qui fait tout bouger dans la série. Et c'est pour ça que je trouve ça effectivement très très fort. C'est un peu comme Game of Thrones, hein. Game of Thrones, ce qui fait bouger toutes les itérations, c'est le trône. Ouais, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est dans le titre. et effectivement, ça marche très très bien, parce que du coup, tu peux t'intéresser aux histoires et tu sais que le personnage principal, c'est pas un personnage. C'est tout va tourner autour de ça et tu vas juste suivre des petits électrons qui vont graviter autour de cette grande magie pour essayer de s'en accaparer les pouvoirs, le comprendre. Enfin, chacun a sa propre vision de l'arcane et ensuite, à côté de ça, on va développer les petites histoires. Et je trouve qu'effectivement, c'est super intelligent d'avoir pris une narration à la Game of Thrones quand t'as autant de personnages à introduire.
Ouais, bien sûr.
Ouais, clairement. Mais surtout que plus t'en as, plus t'as envie d'en découvrir, en fait. Moi, je suis là vivement à la saison 2, j'ai envie d'en voir d'autres. Ils sont trop cool.
Il y en a certains qui vont, je pense, apparaître. Il y en a certains qui sont un peu teasés, et je pense qu'on va voir certaines têtes connues pour les Loliens. Il y en a certains qui vont apparaître, qui sont déjà plus ou moins montrés d'ailleurs.
Ils sont teasés, c'est ça,
plus ou moins. Il y en a certains qui sont même plus que teasés puisqu'ils apparaissent en arrière-plan. D'accord. On les voit clairement, on les distingue. Okay. Donc il y en a certains que je pense on retrouvera en saison 2. Mais moi la vraie question que je me pose pour une saison 2, parce que il y aura une saison 2, elle a déjà été annoncée. Ouais. Pour ceux qui nous écoutent et qui se sont dit putain vraiment j'ai adoré Arcane, il y aura une saison 2. La question c'est de savoir, et c'est là pour moi la grande énigme de Arcane saison 2, c'est est-ce que ça va être une suite de ce qui pourrait être le cas, est-ce que ça va être une suite de l'histoire de Jinx et Vi, enfin du coup de l'Arcane on est les mêmes, ou est-ce que ça va être totalement ailleurs, parce que l'Arcane, pour ceux qui ne le savent pas, donc là c'est mon petit côté lore on peut avoir des débats là-dessus. C'est que, comme son nom l'indique, le monde s'appelle Runeterra. Et donc, comme son nom l'indique, c'est terre des runes. Et les runes, c'est ce qui permet à l'arcane d'être exploité, donc la magie d'être exploitée. Et donc, les runes et l'arcane sont partout sur Runeterra. Et donc, on pourrait très bien imaginer des arcanistes ou des personnages qui découvrent les runes ou qui utilisent ou qui exploitent les runes ailleurs sur Runeterra. On pourrait très bien suivre, comme ça a été par exemple amorcé d'Arcane, on pourrait très bien suivre Noxus, de là où vient Mel. Je dis pas de conneries, qui est un empire expansionniste guerrier. On voit sa mère d'ailleurs qui apparaît à la fin de la série, qui débarque sur son grand bateau, qui flotte avec ses grandes balafres de guerre et tout. On pourrait très bien faire une série uniquement sur Noxus qui se concentre à la conquête de l'arcane, puisque Noxus c'est aussi un de leurs grands plans, c'est de se comment dire, c'est un peu l'Empire romain.
Voilà,
c'est l'Empire romain, c'est les expansionnistes, c'est on va pacifier les autres en leur mettant les grands coups sur la gueule. Et donc du coup, ben l'arcane, c'est un moyen comme un autre de le faire. Et on sait que ils ont eu des interactions avec des peuples justement qui maîtrisent la magie. Ils essaient de s'accaparer leur pouvoir. Ils les utilisent. Enfin voilà, ils font des expériences avec. Donc ça pourrait totalement être ailleurs. Même si, bon, je pense personnellement que ce sera une suite directe à Arcane.
Oui,
voilà. Est-ce que ça se passera quelques temps plus tard, quelques années après? Est-ce que ça se passera avant? Est-ce que ça se passera juste au moment où la série se termine? Ça, c'est la grande inconnue, mais de toute façon, ce sera forcément une masterclass, je pense.
Mais c'est une bonne question que tu poses. Après, ça peut ouvrir complètement à des spin-offs pour le coup.
Oui, exactement. Ça, complètement. Ouais. Mais c'est vrai que ce serait hyper intéressant si chaque saison se plaçait dans un endroit de cet univers qui serait totalement différent, ce qui nous permettrait de découvrir un nouveau visuel à chaque fois, puisque chaque société doit forcément avoir ses différences culturelles, ses différences architecturales qui pourraient être une mine d'or à exploiter en termes d'animation, en fait.
Ouais.
Ouais.
C'est le cas.
C'est le cas. Je te crois, je suis allé voir la carte, regarder la série et tout. Donc,
après, tu vois, comme ils ont fait du cross-média et qu'ils sont essentiellement sur le jeu vidéo, mais qu'ils ont plein de jeux différents, qu'ils ont plein de trucs différents. En fait, le gros point sur lequel on pourrait penser que Arcane sera une suite directe, enfin la saison 2 sera une suite directe de la saison 1, c'est que tous les visuels, entre guillemets, ils sont déjà prêts.
Oui.
Donc, si on veut qu'elle arrive vite, techniquement, il n'y a pas à refaire tous les visuels. Vous avez déjà Zone qui est déjà tout prêt. Le art nouveau est déjà préparé. Le art déco de Piltover est déjà tout prêt. Alors que si vous voulez faire des nouveaux lieux, il faut tout recommencer depuis le début. Mais le studio Fortiche, pour parler un petit peu de Cocorico, c'est un studio qui a explosé, non pas aujourd'hui, parce que Arcane, c'est la première fois qu'ils sont crédités sur un travail de Riot, mais c'est pas la première fois qu'ils bossent pour eux. Et tu le disais d'ailleurs en introduction, Elia, t'as découvert les clips qui ont été faits par Riot. Bah, c'est Fortiche qui les a faits, c'est juste qu'ils sont pas crédités, parce que Riot ne crédite pas ses artistes. Et il faut le savoir, Riot n'a pas crédité ses artistes. T'as dû voir le clip d'Imagine Dragons, donc Warriors, t'as dû voir Rise, t'as dû voir certains clips qui ont été faits, c'est Fortiche qui les a réalisés. Voilà. Et donc, ils sont déjà, entre guillemets, gros, et comme avec l'explosion d'Arcane, en fait, ils ont ouvert deux autres studios, quoi, parce qu'à la base, c'est un studio français, maintenant, je crois qu'ils ont deux studios en France et un studio en Espagne, et c'était ça avant la découverte d'Arcane, donc je pense que, vu la renommée, ils vont peut-être même s'agrandir encore.
Ouais.
Donc, peut-être qu'effectivement, ils pourront nous proposer des nouveaux lieux et une toute nouvelle série Arcane, et ce serait pour le plaisir de tout le monde, même si je pense que je serais bien content aussi de retrouver Popo Yevai.
La question que je me pose, moi, pour la saison 2, c'est est-ce qu'ils vont s'autoriser à tuer des champions, justement?
Alors ça, c'est une grande énigme, mais franchement, j'adorerais voir s'ils sont capables de prendre le risque.
Franchement, je trouverais dommage qu'ils le fassent pas, parce que du coup, ça fait que ils sont invincibles, et au final, ça enlève carrément du suspense et de la crédibilité.
Ça enlève du suspense pour les gens qui connaissent la différence entre les personnages et les champions, mais ce qui était bien dans cette saison-là, c'est qu'avant d'aller me renseigner, je savais pas qui était un héros de League of Legends et qui était un personnage entre guillemets inventé de la série. Donc moi, par exemple, j'étais persuadé qu'ils allaient pas tuer les héros, donc du coup, pour moi, dans ma tête, les personnages comme Silco, etc., ne pouvaient pas mourir, ou même leur père au début, il avait l'air tellement badass qu'on aurait dit un héros. Pour moi, il pouvait pas mourir non plus. Et en fait, mais c'est vrai que si à partir du moment où tu te renseignes sur qui est un héros et qui est pas un héros, ça peut potentiellement te donner un indice, donc ce serait bien effectivement qu'ils puissent être capables de prendre le risque de tuer des personnages que tu connais quoi qu'il arrive, quoi.
Surtout que ça se prolonge au-delà de deux saisons, tu vois, tu vas vite le voir que ces personnages ils restent un peu trop longtemps, enfin tu vois, c'est à voir, ouais. Mais j'espère qu'ils vont prendre ce risque là justement. Je trouverais dommage qu'ils le fassent pas, mais je comprends qu'ils l'aient pas fait pour la première saison, en tout cas.
Surtout quand t'as, comme disait Mika, une dynamique un peu à la Game of Thrones, où finalement le principal c'est pas les personnages mais c'est l'objet qui est au milieu des personnages. Dans ce cas, ça veut dire que tu peux te débarrasser de n'importe quel personnage quand t'en as envie en tant que scénariste, et donc de fait créer ce principe de choc où t'as l'impression que ton personnage est protégé, mais en fait il l'est pas réellement, parce que c'est pas lui qui est important, c'est ce qu'il y a autour de lui.
En fait, je voulais rebondir parce que t'as tout à fait raison, et ça c'est bien vu justement, c'est très très bon. Je trouve que c'est une très bonne remarque, parce que justement ça se voit bien dans les dernières saisons de Game of Thrones, où t'as certains personnages qui sont qui ont le fameux bouclier en scénarium devenus immortels, et en fait ça enlève totalement la crédibilité des personnages et puis des scénaristes, où en fait tu dis au début c'est quand même pour le trône qui se bastonne, et puis super, Jon Snow il peut plus mourir, hein, parce qu'on a bien compris que le mec au milieu de 2000 mecs il meurt pas, il prend 12 coups de couteau, il ressuscite, au bout d'un moment c'est gros, frérot, on a compris, quoi. Enfin, dire, on sait qu'il va pas mourir et que c'est le personnage chouchou des fans. Mais, enfin, il y a plein de personnages que j'adorais qui sont morts quand même. Et pourtant, ça m'a pas, j'étais quand même content de la série, quoi. Et puis,
Mais
tu vois, genre, ils ont plus voulu prendre de risques et ils ont oublié que c'était le trône de fer au centre et pas, pas tellement les personnages, quoi. Donc, ouais. Moi, je suis désolé, mais à partir du moment où, bon, je vais pas spoiler Game of Thrones parce que c'est pas du tout le sujet, mais je veux dire, à partir du moment où t'oublies, que ton personnage principal, c'est le trône de fer et non plus les personnages qui sont, qui vivent à l'intérieur de cet univers, ben, pour moi, tu perds l'âme de la série.
Et j'espère, ouais, tu t'es perdu en chemin, quoi.
J'espère que les showrunners et les scénaristes de Riot ne perdront pas de vue que, bah, la série s'appelle Arcane et pas, Powder et Vaille, quoi.
Ouais.
Je le souhaite, quoi.
Ouais, et d'ailleurs, pour recentrer un peu le débat sur la série en elle-même, j'aurais été curieux de savoir quel est, parce qu'il y a quand même des arcs narratifs qui sont présents, hein, au sein de cette série, et j'aurais voulu savoir quel était votre arc narratif que vous avez préféré, quel était votre binôme finalement que vous avez préféré suivre au cours de cette série. Parce que comme tu l'as dit, Mika, il y en a eu beaucoup des binômes.
Vas-y, Elia, je suis sûr que t'as quelque chose en tête.
Attends, je suis en train de réfléchir. Bah, je sais pas, moi, comme je vous disais, les deux binômes que j'aime beaucoup, c'est vraiment Jinx et Silco et Caitlyn et Vibe. Bon, c'est les plus obvious. J'ai bien aimé le duo Jace et Victor, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le personnage de Victor.
Pareil,
je le trouve très, très cool. Et en fait, je trouve que ce duo dessert énormément à Jace, parce que, alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le déteste, en fait. Je suis en mode, mais il est insupportable, ce mec.
Un gros connard, ouais. Moi, j'ai du mal avec lui aussi. Ouais.
Et je trouve que son duo, genre, fait vraiment, montre de plus en plus, plus t'avances dans les épisodes, plus t'as ce décalage entre les deux, en fait. Et t'es en mode, mais ils s'écartent l'un de l'autre, involontairement. Mais c'est juste qu'ils ont plus les mêmes objectifs. Et Victor, bah, il le dit à la fin. Il est en mode, bah, non, mais on n'est pas des soldats, on est des scientifiques. On avait toujours dit ça. Et tu vois, enfin, c'est cool parce que du coup, tu vois l'évolution tu vois les évolutions des deux par rapport à ce duo-là. Ouais, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont réussi à faire avec ça. Et justement, aussi ce côté, comme tu disais, anti-manichéen, où bah, Victor, vers la fin, il a recours à des trucs où tu sais pas trop dans quoi il est en train de s'embarquer. Et tu sais pas trop de quel côté il va retomber, quoi. Alors que ça part d'une bonne intention, et aussi il y a quelque chose de très légitime au fait qu'il a envie de vivre et qu'il a envie de sauver sa vie par rapport à sa maladie ou ses problèmes de.
Et ouais, justement, je trouve que c'est un personnage, Victor, qui est très intéressant, qui est assez secondaire au début, qui prend un peu plus d'ampleur, mais et malgré le fait qu'il soit secondaire, je le trouve assez bien développé. Mais justement, ça m'a un peu frustré parce que j'aurais voulu qu'il le soit justement un peu plus développé. C'est-à-dire que si je devais chipoter, parce que les auditeurs le savent, je chipote toujours. Je pense qu'il y a un seul détail, moi, qui m'a un peu saoulé, c'est que, saoulé vite fait, hein, c'est pas vraiment saoulé, le terme est pas exact, mais c'est que justement dans le développement, je pense, du personnage de Victor, le développement psychique, il y a ce moment où en fait, du fait de ses expériences, il va tuer une de ses étudiantes sans le faire exprès. Et en fait, j'ai senti que les scénaristes avaient essayé de temps en temps de nous placer cette étudiante-là qui a l'air d'être amoureuse de lui, etc. Mais elle a tellement zéro, dialogue avec le personnage de Victor. Je crois que ça doit avoir 2-3 à tout péter sur 8 épisodes. Que en fait, au final, quand elle meurt, bah, j'ai rien ressenti. Et du coup, en ressentant rien, je me suis dit que le personnage de Victor devait être un peu, devait pas forcément en avoir quelque chose de fou. Enfin, il est triste d'avoir tué quelqu'un, mais ça a pas tant d'impact que s'il avait tué quelqu'un qui était important pour lui, je trouve. Et il y a juste ce petit truc là qui m'a chiffonné personnellement. Après, c'est du chipotage, hein, voilà, c'est vraiment juste parce qu'il faut dire des trucs négatifs.
Je trouve que c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, alors moi, la première fois que je l'ai regardé, j'avais même pas capté qu'on l'avait vu avant cette meuf. J'étais en mode, mais c'est qui? Genre, en la regardant une deuxième fois, du coup, j'étais, ah, mais si, on la voit dans quelques épisodes, en fait. Et justement, je trouve que c'est intéressant que ce soit, enfin, pour débattre sur ce que tu dis, et c'est pas par esprit de contradiction, mais ça me fait penser justement que je trouve que, en fait, c'est intéressant que ce soit un personnage dont on s'en fout un peu, et dont Victor se fout un peu, parce qu'en effet, il la remarque pas, en fait. Parce que ça exacerbe aussi ce côté de, en fait, cette meuf est amoureuse de lui, il la connaît pas, elle travaille avec lui très souvent, je pense. Et là, elle meurt par sa faute parce que lui, il est obnubilé par son truc et au final, il en oublie le monde autour. Donc, quelque part, je trouve qu'il y a peut-être ça reflète un peu ce côté de Victor qui est trop plongé dans son truc et du coup, qui a même pas vu, en fait, et qui a tué cette personne, bah, qui, quelque part, connaissait pas plus que ça, mais par sa faute, par le fait qu'il soit obsédé par ce.
D'ailleurs aussi. Ouais.
Par ses expériences, quoi.
Ouais.
Mais c'est intéressant. Moi, si je peux me permettre de dire un truc qui m'a chiffonné, c'est que je trouve que Vi Elle fait pas grand-chose pour récupérer Jinx. En fait, je trouve que... Bon, alors, la première fois, elle se fait séparer, elle se fait mettre en prison, c'est pas de sa faute. Mais à chaque fois, elle est en mode, non, non, mais c'est ma sœur et tout, je suis sûre qu'on peut la ramener et tout, nanana. Elle essaye une fois, et en fait, bon, bah, concours de circonstances, ils se font attaquer, et du coup, elle se fait kidnapper par Echo. Et la deuxième fois, c'est sur le pont, et ça dure 3 secondes, et c'est en mode, bon, bah, en fait, Caitlyn est blessée, donc je m'en vais, tant pis pour ma sœur. Et je trouve que t'as ce truc de... C'est quand même le... Bah, pour moi, en tout cas, je trouve qu'ils l'ont vendu comme ça, la série, que c'était un peu l'histoire de ces deux sœurs. Et j'ai trouvé que Faye, elle faisait vraiment pas grand-chose pour récupérer Jinx. Et ça, j'ai trouvé un peu dommage. J'étais en mode, bah, meuf, t'essayes même pas. Mais bon, voilà.
Ouais, je peux comprendre. Et du coup, toi, Mika, t'as un arc narratif préféré? T'as des choses... qui t'ont chiffonné un petit peu, tu veux revenir sur ce qu'on a dit?
Non, mais là, c'est le moment où je vais briser l'ambiance, je crois. Ah. C'est le moment où je veux briser nos rêves, les miens également, mais en fait, avec ce que vous avez dit, et en fait, ce que j'ai pas dit au début, voilà, pour éviter de briser l'ambiance, c'est que ce que j'ai dit à propos des personnages, que j'aimerais bien, effectivement, comme tu l'as dit, Léa, qui finalement, ils prennent des risques et qu'ils meurent. En fait, je pense que ça ne pourra jamais se passer. J'aimerais beaucoup, hein, franchement, j'adorerais, mais ça ne prend pas la tournure de ça. Justement au vu de ce que vous venez de dire tout simplement et au vu de ce que on sait sur le lore actuel du jeu League of Legends. En fait, ce qui se passe, c'est que les personnages prennent la tournure qu'ils prennent dans leur lore respectif. Et donc du coup, ben vu que dans leur background, dans leur histoire personnelle, et ben on rejoint l'histoire dans le jeu vidéo, ben ça veut dire qu'ils ont ce bouclier en fait, qu'ils pourront pas mourir. Et ça m'attriste énormément parce que j'aimerais qu'ils prennent des
risques,
des vrais risques quoi. Mais comme tu le dis effectivement, ben oui, Victor, il se sépare de Jace. Oui, Vi et Jinx, elles se séparent. Et dans la série, effectivement, c'est presque un peu artificiel parce que c'est amené. Tu vois qu'effectivement, ils ont pas les mêmes idées. Oui, Jace est un trou du cul et c'était déjà un trou du cul dans le lore. C'est juste que là, ils l'ont un petit peu plus édulcoré pour lui donner des vraies raisons d'être un trou du cul arrogant. Et pareil pour Vi et Jinx, en fait Vi techniquement elle peut plus sauver sa sœur, c'est trop tard puisque même au moment où elle s'assoit dans la chaise, on sait déjà qu'elle a basculé au niveau du pont, mais même avant ça.
Ouais.
Même avant ça, on sait que Jinx elle a basculé, que Vi en fait elle est même pas sûre de vouloir sauver sa sœur, mais tout simplement parce que c'est écrit dans le lore de League of Legends et ça m'attriste un peu de me dire bah que ça va aller dans cette direction. Alors je suis content parce qu'il y a certains personnages qui vont prendre de l'importance et on va découvrir sous une autre facette. Je vous fais des wink wink parce que Victor aussi, je kiffe Victor de fou, c'est peut-être même un de mes champions préférés sur le jeu et que j'ai surkiffé dans la série. Enfin, je vous dis rien, mais voilà, si vous connaissez pas le lore de League of Legends, je vous dis rien, vous allez voir, ça va être exceptionnel. Mais ça me fait un peu de la peine aussi de me dire que ben ces héros, je vais être content de les retrouver et que je peux les retrouver dans League of Legends quoi. Enfin, je veux dire, ils auront pas plus à m'apporter que sur League of Legends et ça va me faire chier. Donc je suis trop content de la série Arcane. Franchement, il faut la mater. Pour moi, c'est un bijou, c'est une masterclass. J'espère juste que la saison 2 sera une aussi belle claque et qu'ils oseront prendre
à contre-pied les gamers. Ouais, quoi.
Prendre à contre-pied. Enfin, au moins nous montrer des choses auxquelles on s'attend pas forcément au niveau du lore. Enfin,
ouais.
Moi, je suis totalement d'accord avec le fait qu'ils collent pas à 100% sur les choses qu'ils ont écrites. Après, je pense pas, puisque pour moi, ça rejoint un petit peu ce que sont censés devenir les champions, enfin, en tout cas les héros qui ensuite sont invoqués dans la faille pour devenir des héros de jeux vidéo. Et je le souhaite pas. C'est cool, hein, leur histoire est super bien, et quand tu les lis, t'es content, tu fais « Ah ouais, non, pauvre de lui, ah ouais, ah non, mais toi, t'es un con, et machin. » Sauf que bah, c'est des histoires, entre guillemets, que tu connais déjà, qui vont juste être adaptées. Un très beau format d'adaptation, on est bien d'accord là-dessus. Mais c'est pas des histoires originales. En même temps, ils s'en étaient pas cachés non plus. Hein. Clairement, ils adaptent le lore de League of Legends quelque part. C'est juste que bah, ils auraient pu faire un. J'espère qu'ils feront ce petit effort-là en saison 2 comme ils l'ont fait en les introduisant des super persos. Enfin, moi personnellement, il y a des persos genre le père adoptif que j'ai surkiffé. Qui meurt. Voilà, moi j'étais trop triste quand il est mort. Et parce que du coup, c'est un personnage qui n'existe pas dans leur lore à Vi et Jinx, qui est totalement créé artificiellement, mais qui leur donne une connexion supplémentaire par rapport. Et je trouve ça que c'est super chouette. Voilà. Après, pour ceux qui ont un petit peu regardé entre les lignes et qui ont vu dans l'épisode 9 qui c'est qui était accroché dans le laboratoire de Singed, ben Singed, bon bref, personne ne sait jamais comment prononcer ce pseudo, enfin ce perso. Certains l'auront reconnu, mais peu importe, ça j'ai trouvé que c'était des super additions, il y a plein de choses qui sont super bien, mais malheureusement, comme on le dit, ben j'espère juste que prendront des risques dans la saison 2 et qu'ils oublieront pas que ben ils ont fait un super boulot avec la saison 1 et je veux pas qu'ils sabotent dans la saison 2. Mais pour du coup répondre à ta première question initiale, c'était qu'est-ce que j'ai le plus kiffé dans la série ? Il y a plein de moments que j'ai adoré dans la série en fait parce que tu sens que Fortiche, c'est un studio qui a fait des clips pour Riot, ouais. Et ça se ressent énormément.
C'est vrai qu'il y a un côté très clip.
Ouais, t'as l'impression des fois de mater un clip pendant 10 minutes parce qu'il y a certaines scènes qui sont construites comme des clips de musique et c'est d'ailleurs des clips de musique.
Oui, c'est ça.
Je pense à la scène du début qui est très forte en émotion, mine de rien, tu connais pas les personnages et puis tu les vois sur ce pont avec les pans en mort et puis la petite comptine, ça fait très chanson, enfin voilà, chanson un peu de condamné, voilà, je trouve ça c'est une très belle scène. Et je pense la scène qui graphiquement m'a le plus marqué, enfin les deux scènes qui m'ont le plus marqué graphiquement, trois scènes, putain il y en a vraiment trois, c'est la scène de des retrouvailles en fait entre Jinx et Vi. Avec cette musique de Woodkid, I Heard Guns, qui est exceptionnelle. Franchement, moi, je me la remate à H24. Je trouve cette chanson, ce passage vraiment trop beau. Et le combat entre Echo et Jinx, que je trouve magistral. Ouais, enfin, vraiment, il est trop trop beau. C'est une giga claque graphique. Et en fait, ouais, du coup, ça rend vraiment les. Pour moi, en fait, ce sont ces moments de clip-là, ces choses-là où justement tout bascule parce que du coup, tu as des interactions avec les personnages que tu n'avais pas avant. Ouais. Dire Echo et Jinx, t'attends 7 épisodes avant qu'il y ait une vraie interaction entre eux parce que tu les vois effectivement quand ils sont petits et tu sens qu'ils sont potes quand ils sont petits et en fait tu découvres toute leur enfance en fait à être des potes dans ce clip où justement ils s'affrontent et je trouve que c'est magistral, c'est trop bien écrit, c'est trop bien fait,
c'est clair.
C'est trop bien designé comme c'est fait et il y a plein de trucs comme ça, des petits moments de petits clips où justement, ouais. En fait, ils transmettent tellement de trucs en 2-3 minutes que t'as pas besoin d'avoir des épisodes qui durent 4h30. En fait. T'as pas besoin
et
d'avoir.
C'est une prouesse de réalisation parce qu'au final, c'est à la fois d'écriture et de réalisation parce que du coup, tu te sers de ta mise en scène, de clip, de ta musique, oui. Juste pendant un court instant pour faire passer une émotion et faire comprendre tellement de choses au public que t'as pas besoin de l'expliquer. C'est vraiment le principe du show don't tell, quoi. Tu montres.
Exactement.
Tu ne l'expliques pas, quoi.
Exactement.
Et ça, c'est ouf.
Exactement. Et pour moi, vraiment, c'est la force de cette série, c'est qu'elle utilise énormément le show don't tell. Et franchement, des fois sur des courts moments, enfin le passage où il y a Victor qui est en train de crever devant la rune, et pendant que Mel et Jay se tapent la meilleure barre de leur vie. Et ben, ce passage entrelacé entre les deux personnages, où en fait tu rends compte que ben oui, il y a une fusion des corps, mais pour deux trucs qui n'ont rien à voir. Et pour deux personnages qui sont liés par l'amitié et que tu vois que du coup ben c'est grâce à ce clip que tu vois vraiment que ben il y en a un qui s'attache au réel et il y en a un qui s'attache en fait enfin il y en a un qui s'inscrit dans le monde réel, le monde politique et un qui s'inscrit dans le monde magique scientifique pour lequel il a donné toute sa vie au sens propre du terme puisque du coup il va jusqu'à lier sa vie à ça alors que Jace va lier sa vie aux personnes en fait aux humains et tu vois vraiment c'est là que va s'opérer la rupture et je trouve que c'est magistral.
Ouais, non, voilà. C'est clair.
C'est beau.
C'est clair. Très beau. Très, très beau. Moi, je vais vous donner mon avis aussi, du coup, sur ce que j'ai vraiment adoré. Le personnage de Jinx, il est très, 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 très bon. J'aime beaucoup la relation qu'il entretient avec Silco. Mais bon, ça, je pense qu'à peu près tous les gens qui ont regardé la série aiment bien ça. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié, notamment, c'est le visuel qu'il y a autour de Jinx. C'est-à-dire toutes les scènes où elle est toute seule, où elle pète un câble, où t'as vraiment ce côté très street. Je trouve dans le visuel avec les visions qu'elle a de ses potes qu'elle a tués du coup quand elle était gamine et juste ça à chaque fois moi ça me fout les frissons quand elle parle toute seule et que tu vois son point de vue à elle avec les gens qui n'existent pas mais qui sont là et c'est visuellement c'est une très belle réussite sur ce personnage là qui après dans son design, ça c'est le design du jeu vidéo je pense, un relent Harley Quinn-esque je trouve dans son design, mais qui reste quand même bienvenu et qui est voilà quoi, tout simplement. Donc, je voulais juste rajouter ça avant de passer
à la suite. Clairement. Je pense que la saison 1, ils étaient un peu attendus au tournant justement par les joueurs de League of Legends. Et du coup, selon moi, c'est ce qui fait qu'ils n'ont pas pu prendre trop de liberté... Par rapport à ce que tu disais là, le fait qu'ils suivaient exactement l'histoire des personnages
ouais,
au
ouais,
final.
Ouais, ouais. Je le souhaite.
Et j'ose espérer que justement ils ont attendu de voir ce que ça donnait et vu que là le succès a vraiment été au rendez-vous, même plus que ça. Je me dis avec un peu de chance, voilà, ils ont ramené les gens qui jouaient déjà, mais je pense qu'ils ont ramené aussi beaucoup de gens qui jouaient pas au jeu.
C'est
et qui eux seront pas déçus par le fait que on sait pas exactement ce qui se passe dans le jeu puisqu'ils le connaissent pas. Et du coup, j'ose espérer que justement ils en profitent pour, euh, pour prendre plus de liberté et justement en même temps pouvoir surprendre les joueurs tout autant que les non-joueurs.
C'est ouais, et puis c'est tout à fait vrai. Et puis il y a un bel argument en fonction de, enfin en faveur de ce que tu dis, qui vient de me revenir en tête en fait, et c'est vrai que t'as raison. En fait, ils peuvent encore nous garder la surprise, c'est que en fait effectivement ça va ramener plein de nouveaux joueurs. Ces nouveaux joueurs qui, comme tu le dis, ne vont pas forcément connaître le lore, vont s'y intéresser parce qu'ils vont arriver justement dans un endroit où ils ont vu un super scénario et vont se dire, bah dans le jeu les personnages ont un super scénario également. C'est pas 100%, hein. Tous les persos sont pas comme ça, il y en a plus de 150, voilà, c'est comme les Pokémon maintenant, il y en a beaucoup trop, et tous n'ont pas un lore hyper développé, mais ça pourrait être un truc de se dire, voilà, dans la saison 1, vous avez vu des personnages, vous les avez appréciés, vous êtes attachés, vous avez kiffé, et bien dans la saison 2, il y en a peut-être qui vont mourir, bah, si vous voulez le retrouver, venez jouer au jeu parce qu'ils sont encore en vie, tu vois, ça pourrait être le cas, sachant qu'on sait que... Enfin, moi, je te dis, ça fait longtemps que je joue à LoL, en tout cas que je m'y intéresse un petit peu, même si j'ai décroché il y a quelques années maintenant. Ils ont déjà fait des trucs comme ça où en fait, on les attendait pas vraiment. C'est-à-dire que ben, il y a des champions qui sont tués dans leur jeu. C'est-à-dire que techniquement, c'est un jeu où tu peux mettre à disposition des champions. Ils pourraient tout simplement juste les retirer du jeu. Et ben, ils ont décidé de justifier ça de manière canon. En tuant le personnage grâce à un événement. Pour ceux qui ont joué en 2017, si je dis pas de conneries, c'était l'événement des mercenaires de Bilgewater, où en fait il y avait une course entre guillemets entre deux personnages, donc Miss Fortune et Graves, qui sont deux chasseurs de primes, chasseurs de pirates, et au terme de l'événement, le roi de Bilgewater, le roi des pirates entre guillemets, qui n'est pas Luffy de One Piece, qui s'appelle Gangplank, a été tué. Et donc il y avait un message, un communiqué officiel de Riot qui disait voilà, Gangplank est mort, vous ne pouvez plus jouer Gangplank.
Ah ouais,
voilà. Et en fait c'était pour amorcer son rework, donc ils l'ont retravaillé, ils l'ont ressorti sous forme de champion en fait, en gros ressuscité. Ils ont retravaillé son design, ils ont enlevé un bras, ils ont mis un bras mécanique à la place et tout, en mode ben en fait il a été sauvé par les eaux, et du coup maintenant il veut se venger de ceux qui l'ont traqué et qui l'ont tué. Donc à la fin en gros il y avait deux équipes, donc tu prêtais allégeance à l'un des deux de chasseurs de primes quoi. Donc c'est l'équipe de Miss Fortune qui a gagné, et donc depuis Gangplank s'est réveillé et voue une haine à Miss Fortune parce que elle a jamais caché qu'elle voulait tuer Gangplank, mais du coup l'a vraiment fait, sauf qu'il s'en est sorti, et du coup ben ça donne ce côté en fait ils peuvent quand même faire des trucs un peu couillus, tu vois. Peut-être que on sera surpris, et moi le premier, et je le souhaite, avec la série, qu'ils seraient peut-être capables de faire ce genre de truc. Ce serait trop lourd en vrai. Ouais.
Et bon,
trop cool.
On croise les doigts. Eh ben écoutez, moi je vous conseille d'aller voir Arcane. Je pense que oui. Mika et Elia vous conseillent aussi d'aller voir Arcane, de ce que j'ai cru comprendre.
Oui.
Et donc du coup, quand vous l'aurez vu, ben revenez sur cette vidéo et dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires, voilà, simplement. Nous, on espère en tout cas que vous allez très très bien chez vous, où que vous soyez. Et puis on vous souhaite une très bonne soirée, une très belle journée. Et puis on se dit à très très vite pour un nouveau coup critique qui portera, je ne vous le cache pas, chers auditeurs, probablement sur le prochain Spider-Man qui sort demain. Voilà, on essaiera de se caler ça rapidement avec probablement l'ami Raphaël, puisqu'on en parle tous les deux depuis 3 siècles à peu près. Voilà, bah écoutez, bonne soirée à vous tous.
Merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Bonjour, bonsoir.
Bonjour, ça va ?
Oui, ça va, c'est juste que on est dans les préparatifs du déménagement.
Bon. Pas de soucis.
Putain, Marc, on dirait que tu vas finir à l'hôpital.
Pourquoi ?
T'es là, pas de soucis.
Oh, pardon, je suis ailleurs.
Qu'est-ce qui s'est passé, mon Marcou ?
Non, rien, je suis en ce moment-là, je suis un peu claqué. Mais tout va bien. Toi, ça va, Mika, du coup, tu t'en sors avec ton déménagement
Ouais, bah je faisais des cartons avant d'arriver là, et du coup je suis avec qui ce soir là, parce que Jackie Jack, j'imagine que c'est pas ton vrai prénom.
Eh non, c'est Elia, mais c'est vrai que vous avez jamais bossé ensemble, je pense.
Je crois pas, et je me souviens pas avoir fait un DTDR avec toi.
Eh non, bah du coup Elia, je te présente Mickaël, et Mickaël, je te présente Elia.
Bonjour.
Bon bah du coup, j'ai vu que t'avais lancé un message au cas où des gens veulent nous rejoindre.
Je me suis dit que de toute façon t'aurais pas le temps, je me suis dit je prends les devants. Si t'avais pas répondu au doodle, c'est que...
Oui, c'est que je pense que ça allait brancher pas, mais on sait jamais.
Non mais tu m'as fait trop rire, Mickaël, le truc de... Ah mais il y a que nous, je croyais qu'on était 600 et ça m'a dit, putain,
mais c'est
oui.
Vrai en plus tout le monde avait
qu'on allait finir à 20.
Trop chaud mais carrément, et genre en fait je pense que personne n'était dispo aujourd'hui, c'est tout.
Bah, en fait il y a que 3 personnes qui ont répondu à ce doodle, il y a Elia, toi Mika et Benoît. Et Benoît il était tout seul sur un jour, et encore il m'a dit je suis pas très très sûr de pouvoir être dispo en fait, et du coup j'ai dit bon bah ok. Et tous ceux qui avaient dit ouais trop partant et tout n'ont jamais répondu au doodle.
Ouais c'est ça.
Mais c'est un grand classique.
Moi je suis content que tu l'aies fait, parce que du coup ça m'a permis de caler une date. Merci, merci Marc de tout ce que tu fais pour nous. Tu es trop bon pour nous.
Putain, le pauvre.
On te le dira jamais assez.
Ah, allez, on va s'y jeter. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.